BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag. Je vous souhaite une excellente année 2021, une année avec un peu de présentiel, moins de Zoom, des challenges professionnels et des chefs bienveillants et compétents. Voilà ce que je vous souhaite pour l'année. Au menu de cette émission, un invité exceptionnel, le paléanthropologue Pascal Pic, qui va venir nous parler de l'évolution de l'entreprise. On parlera aussi formation. Enfin, les Français sont prêts à s'intéresser à leur employabilité et leur carrière. 60% se disent prêts à se former sur leurs jours de congé. Et on commence tout de suite avec une question de fond. Comment se différencier et créer de la valeur quand on travaille sur le web? Je reçois le patron de Netino. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Hervé Rigaud. Bonjour, PDG de Netino. Netino, c'est un prestataire de services spécialisé dans la modération des espaces communautaires, des sites internet. Vous filtrez les contenus, vous découpez, enfin, vous avez tout un tas de métiers, vous allez nous expliquer ça. Vous avez été racheté par Webhelp en 2016, mais c'est une boîte qui existe depuis quoi? 20 ans à peu près?
19 ans précisément.
19 ans. Bonjour. Laure. 19 ans, vous avez 1600 freelances, 45 salariés entre Paris et Madagascar. Quelle est la typologie de salariés qui travaillent pour vous aujourd'hui?
De salariés? Alors, nous, on a deux
types. D'abord les salariés, oui. Après les prestataires.
Très bien. Eh bien, la typologie de nos salariés, elle est très variée, puisqu'en fait, nous intervenons auprès des directions marketing et digital dans plusieurs types de métiers. Alors, notre métier historique, c'est la modération, mais nous ne faisons pas que ça. La modération, aujourd'hui, représente 50% de notre chiffre d'affaires. Nous faisons aussi des prestations de social listening, de veille social media. En fait, historiquement, nous, on est là pour préserver les images de marque. La modération fait partie de la préservation de l'image de marque, mais on vient aussi en amont pour alerter, faire encore une fois de la veille, de la modération de contenu, pas uniquement les modérations de texte. Et ensuite aussi, on a des prestations de community management et de la prestation aussi de conseil sur des campagnes social media.
Mais donc vos salariés
représentent un peu toutes ces activités-là.
D'accord.
Donc on peut avoir des spécialistes de la modération qui viennent des métiers, plutôt des métiers propres à l'écrit. Donc on a même des journalistes qui font partie de nos salariés, de formation de journalistes, et qui ont une vraie appétence par rapport aux médias. Et ensuite, on a des gens qui ont des appétences sectorielles, qui peuvent avoir des appétences pour la distribution. On les recrute aussi sur leurs propres affinités en fonction de certains secteurs, ou des appétences sur les énergies, les appétences sur les banques, etc.
Donc en fonction des clients, il y a des salariés. Et ensuite, vos 1600 prestataires, ils viennent en renfort?
Tout à fait. Alors, en renfort, en fait, nos salariés pilotent en général les prestations.
D'accord.
Ils font l'interface entre les clients et nos prestataires, qui, eux, sont plutôt des forces de production, qui sont là pour modérer, comme vous l'avez dit, découper des vidéos, mais aussi animer des communautés, puisque community management, tout se fait grâce à des freelances, et nos salariés font l'interface avec nos clients, donc ont beaucoup plus une fonction de chef de projet et d'account manager que des fonctions de production.
Quand on parle des coulisses du web, on a toujours l'impression qu'il y a une armée de petits soldats comme ça dans un grand open space qui gère des masses et des masses de contenu. Il y a des métiers à valeur ajoutée où il y a effectivement besoin de cette armée de personnes qui travaillent pour modérer?
Eh bien, il y a les deux. En fait, ça dépend aussi de la typologie des activités. Les activités de modération sont des activités avec des flux très importants. Et ben, on peut pas faire l'économie d'avoir, comme vous dites, des armées de personnes, plutôt dans des pays en voie de développement. Vous citiez Madagascar. Mmh. Nous, on a environ 450 personnes à Madagascar, mais on a plus de 1600 personnes, comme vous l'avez dit, à travers le monde. On opère en 38 langues. Donc, en fait, on n'a pas que des personnes qui sont sur des pays en voie de développement, mais on en a beaucoup.
Et pourquoi ce choix de Madagascar? Pourquoi 450 à Madagascar?
Ça a été un choix historique. Je tiens à saluer ici Jean-Marc Royer qui m'a succédé à la tête de Netino. C'est lui qui a créé la société. Alors c'était un choix historique parce que c'est un pays qui est clairement un pays avec une forte appétence sur l'écrit. Et la modération, c'est basé sur l'écrit, donc là, une bonne compréhension de l'écrit. C'est moins le cas d'autres pays francophones. Donc
vous êtes allé chercher une compétence là-bas?
Tout à fait. Nous sommes allés chercher d'abord une compétence et ce qu'on appelle aussi des soft skills, des gens qui à qui on pouvait apporter du travail, parce que c'est notre modèle. Nous, ça fait 19 ans qu'on est en home office, en télétravail ou en home office et avec des freelances. Et c'était une sorte de win-win avec ces compétences. On leur apportait du travail sans leur demander d'aller faire des kilomètres et des kilomètres pour aller justement dans une usine à modération qu'on peut connaître ailleurs. Et c'était un peu notre choix et notre positionnement. Et ça nous a réussi puisqu'aujourd'hui, 90% de nos modérateurs à Madagascar sont là depuis plus de 10 ans. Nous n'avons aucun turnover.
Aucun.
Aucun. Sauf celui qu'on provoque.
Il y a donc la masse, ces usines à modération, et puis il y a celui qui sort de la masse, le content manager, le community manager. Il y en a certains qui sont devenus célèbres, on pense à celui de Decathlon par exemple, certains émergent. Il faut quoi aujourd'hui, pour être, c'est deux métiers très différents, mais pour être un bon community manager, qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien, il faut déjà avoir une grosse affinité par rapport à son sujet. Il faut aimer justement là aussi, il faut aimer l'écrit, il faut aimer porter animer. C'est quelqu'un qui va vouloir animer et pas seulement répondre, qui va être dans la proactivité.
Il faut aimer son client alors, il faut aimer son, c'est la marque qu'on défend absolument.
Tout à fait, il faut aimer son client. J'ai des community managers, j'ai des social media managers qui travaillent en régie chez mes clients ou qui refusent de travailler pour certains de mes clients. Oui, tout à fait.
Ils disent j'y arriverai pas, ce client-là.
J'y arriverai pas avec certaines marques que je ne citerai pas, mais c'est contre leurs valeurs. Et je trouve ça très bien. Et c'est l'avantage aussi de travailler avec des freelances, ce qui est notre cas, c'est qu'ils sont honneurs de leur propre force de travail et donc ils ont parfaitement le droit de se positionner par rapport à ça.
Quelle est la marge quand même de liberté d'un community manager? Parce qu'on le voit, certains émergent grâce à l'humour, grâce à leur diplomatie, mais on est sur le fil du rasoir. Il faut que ça corresponde à la marque, en même temps à la communauté, c'est très dur.
Ben, c'est très dur et c'est très dur en effet. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va être à la fois capable d'apporter une valeur ajoutée très forte à la marque, donc c'est pour ça qu'on vient nous chercher. En général, c'est des gens qui sont aguerris, qui ont une compétence avérée dans leur métier. Mais c'est aussi quelqu'un qui va s'inscrire justement totalement dans les valeurs de marque. Même si, encore une fois, il est indépendant. Encore une fois, il y a des personnes qui sont salariées, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui sont salariées ont plus d'engagement vis-à-vis de la marque. Moi, je trouve des personnes qui sont très, très engagées, encore une fois, sur des valeurs. Et c'est pour ça que c'est important de les faire fitter avec les marques pour avoir des gens qui sont complètement engagés dans la marque, mais aussi engagés avec les équipes. C'est-à-dire que un community manager, il doit travailler avec les équipes marketing, avec les équipes communication.
Il faut qu'il connaisse la stratégie de l'entreprise quand même. Il faut qu'il soit intégré, on ne peut pas le laisser tout seul.
C'est presque un média à part entière à lui-même. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le sens premier du terme, c'est un média.
L'ensemble de vos prestataires sont en home office. Vous me disiez, ça fait, en préparant l'émission, ça fait 20 ans que vous faites du home office. Vous avez donc vu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
Alors là aussi, c'est pareil, je ne veux pas me positionner comme donneur de leçons, mais on a la chance d'avoir de façon native, c'est notre ADN de travailler en home office, avec des gens qui ont choisi aussi ce home office de façon dès le début, et avec des gens qui ont choisi aussi l'autonomie, encore une fois, le freelancing. Et donc ça, c'est des soft skills.
C'est déjà un élément, ça veut dire qu'on ne fait pas du home office contre son gré, quoi.
Et tout à fait, c'est un élément, je pense, moi, c'est un élément très important. Comme je vous le disais en préparant la mission, je peux parler un peu de ma propre expérience, puisque moi j'ai des salariés et des freelances. Et c'est vrai que la gestion des salariés, qui ont toujours connu le rôle social de leur travail et l'avantage de rencontrer des gens et d'aller au bureau, eh ben, ont plus de difficultés à s'inscrire définitivement dans un travail en home office, ce qui n'est pas le cas des freelances, encore une fois, ce qui n'est pas le cas des gens qui ont choisi relativement.
On va faire le même quiz RH qu'à tout le monde. Vous me dites stop ou encore, les CV, on continue ou on arrête?
On continue.
Les horaires, on continue ou on arrête?
On les remet en cause.
Ah quand même. Les tests de personnalité, vous en faites?
Oui.
Ça marche?
Ça marche.
Les Zoom et les Teams? Ah, vous n'avez pas
les
me dire
Zoom
qu'on
et les Teams. Non, on n'arrête pas, non.
Les Chief Happiness Officer, vous en avez?
Non. Pas assez de salariés. Moi, j'ai connu, dans d'autres activités, j'ai connu les deux.
Et c'est oui ou c'est non?
Des expériences très. En fait, ça dépend du Chief Happiness
Officer. C'est ça, dépend.
Ça dépend de la personne.
Les livres de coaching, on continue ou on arrête?
On continue.
Les feedbacks, c'est la grande mode des feedbacks.
Des feedbacks clients, des feedbacks managers, on continue.
Tous, tout le temps?
On continue.
Les entretiens de fin d'année, on continue. Ah, du vôtre ou vous en avez fait passer?
J'en fais passer.
LinkedIn, c'est quoi votre relation avec LinkedIn?
Oh, très intense.
Vous y êtes quotidiennement?
Oui.
Vous répondez?
Je réponds. Et on accompagne des clients là-dessus, oui, aussi.
En modération, mais vous, à titre personnel, vous vous en servez?
Oui, je m'en sers. Et je trouve ça très efficace.
Merci beaucoup, Hervé Rigaud, d'être venu nous voir, PDG de Netino. On va parler anthropologie et entreprise maintenant.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va parler de la transformation des organisations. Les entreprises et leurs managers notamment sont-elles assez armées pour faire face aux crises? On est avec Pascal Pic, paléo-anthropologue et maître de conférence au Collège de France. Bonjour, merci d'être avec nous. On va analyser l'entreprise ensemble. C'est pour ça qu'on vous sollicite, pour tenter d'analyser le changement au sein des organisations et la capacité des hommes à gérer les évolutions. Je vous ai entendu dire dans une conférence que nos dirigeants, que ce soit dans l'entreprise ou dans la politique, n'ont aujourd'hui pas connu de grandes crises. C'est désormais chose faite. Est-ce que vous pensez que cette crise va marquer durablement tous les dirigeants?
Ça, je l'espère. Mais en tout cas, en effet, souvenez-vous, à la fin des années 1990, donc à la fin du XXe siècle, M. Jeremy Rifkin disait que c'est la fin du travail, c'était repris en France par d'autres personnes. On a dit ensuite que les intelligences artificielles, les robots, l'automation, l'automatisation, ça allait être la fin du travail et que, de toute façon, nous allons avoir de grandes difficultés. Que par ailleurs, on avait dit que le meilleur modèle était atteint, c'était Francis Fukuyama, vous vous souvenez, qui avait écrit « La fin de l'homme, la fin de l'histoire », parce que nous étions dans une mondialisation heureuse, le monde occidental, la démocratie, le libre commerce avait gagné. Donc il y avait une espèce d'euphorie, et puis d'un seul coup, il y a eu des changements brutaux qui ont été sanctionnés par la crise de la Covid, mais néanmoins, lorsqu'on est dans le champ de l'évolution, comme moi, il est très clair que tout n'est pas à inventer. Ce qui est en train de se passer, c'est que des tendances qui étaient déjà largement amorcées vont soit être sélectionnées et apporter vraiment une nouvelle façon de concevoir le monde des entreprises et les relations entre les entreprises et la société, ou alors, ce qu'il ne faut pas, bien sûr, c'est ceux et celles qui disent « Ah ben attendez, on est allé trop loin, il faut revenir en arrière, on ne revient jamais en arrière ». Et c'est cette leçon-là qu'il va falloir bien comprendre, c'est comment être capable de percevoir que les tendances qui étaient déjà émergentes et qui étaient importantes vont devoir être le modèle pour les entreprises de maintenant et non pas de demain, et non pas à termoyer comme on l'a fait jusqu'à présent.
Donc ça veut dire que cette évolution, c'est en partie les corps sociaux qui sont un peu partout pour une entreprise, elles se disloquent, il faut travailler à des endroits différents, ça on ne reviendra pas dessus.
On ne reviendra pas dessus, tout en sachant que quand même, nous sortons d'une période un peu particulière. Ça ne fait pas si longtemps que cela, quand même, que les gens quittaient leur domicile pour aller travailler, notamment les femmes, en plus, surtout pour les femmes. Et que de fait, aujourd'hui, par exemple, le télétravail, dont on parle beaucoup, vous en parlez beaucoup dans votre émission, va être un enjeu absolument considérable. Vous avez parlé d'organisation des entreprises. Oui. Lorsque nous, en anthropologie, on regarde une société humaine, une société de singes ou de grands singes, on décrit deux paramètres. L'un qui est la structure, c'est-à-dire le nombre de personnes et leurs qualités qui sont présentes ensemble, et l'organisation qui est la manière dont elles interagissent. Et là, ce que l'on est en train de connaître, c'est un changement absolument fabuleux en termes d'organisation, ce qui était déjà amorcé. Vous en parlez souvent d'ailleurs. En ce qui concerne, par exemple, les open space ou les lieux de travail, on voit bien que ça n'a pas très bien fonctionné, pas toujours. Il y a de vrais problèmes en termes d'adaptation, c'est-à-dire qu'on a une espèce de mode, comme les open space, on s'est aperçu que dans tous les cas, ça ne marche pas. C'est pareil pour les méthodes agiles. Les méthodes agiles, c'est vraiment sur les organisations. Comment on met des personnes avec les compétences qu'on espère ou parfois inattendues à travailler ensemble pour innover et proposer de nouveaux projets, voire les développer. C'est pas toujours les mêmes d'ailleurs. Mais les méthodes agiles, ça s'applique pas partout. Donc, il y a un vrai phénomène aujourd'hui en termes d'adaptabilité qui consiste à bien percevoir comment faut faire. Et le télétravail, c'est un très bon exemple. La France était grosso modo dans la moyenne européenne en ce qui concerne le taux de télétravail, qui était quand même pas très élevé. Et d'un seul coup, donc, tout le monde s'est retrouvé avec le confinement au télétravail. Alors, il y en a qui disent que c'est formidable, d'autres qui disent qu'on va revenir. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde à travers la littérature ou les émissions, on s'aperçoit que certaines entreprises disent « ben non, tout le monde va revenir au bureau mmh. » et d'autres qui disent « ah ben non, on va tout faire en télétravail ». Et parfois même dans les mêmes secteurs, même dans les secteurs du numérique. Et en définitive, c'est là que l'éthologie, l'anthropologie peut être importante. C'est-à-dire qu'on va, je vais vous surprendre, on va s'orienter certainement de plus en plus vers des sociétés de fusion-fission. Ça veut dire quoi, ça ? La fusion-fission. C'est ce que font très bien les chimpanzés. C'est-à-dire qu'on fissionne, on se rassemble pour faire certaines activités collectives, pour innover, pour échanger des informations. Et on fissionne, donc on se sépare pour aller vers d'autres activités ou travailler d'une manière plus ou moins isolée. Le vrai enjeu aujourd'hui des transformations, ce n'est pas de réfléchir à nos métiers en tant que métiers comme quelque chose d'uniforme, mais en termes de tâches. Et ceci était déjà amorcé avec l'arrivée des formes d'intelligence artificielle ou des formes de travail numérique que nous connaissons de plus en plus, ou même ce que nous faisons là en vision conférence. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable de se dire, OK, qu'est-ce qui est mieux pour les humains ? Qu'est-ce qui est mieux pour les machines ? Qu'est-ce qui est mieux pour les machines et les humains ? C'est-à-dire réfléchir en termes de tâches, quelles sont les tâches qui sont plus à même d'être faites en télétravail ou autre, ou de manière plus délocalisée, ou de manière plus rassemblée.
Mais ça déconstruit totalement l'organisation de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. L'entreprise ne réfléchit pas comme ça à son organisation aujourd'hui.
En fait, ça ne veut pas dire qu'elle ne réfléchit pas, elle n'a pas eu l'occasion d'y réfléchir. Car en définitive, on était inscrit sur une espèce d'inertie qui était quand même... à la fin du 19e siècle, eh bien, c'était les moyens de production. Donc, les personnes, on invente le salariat, les personnes vont travailler. Et lorsqu'est arrivé ensuite le secteur tertiaire, donc après la Seconde Guerre mondiale, surtout les années 60-70, eh bien, c'est pareil. Qui pouvait se payer un ordinateur ? Les micro-ordinateurs n'existaient pas dans les années 70-80 ou à peine. Donc, il fallait des moyens de production qui demandaient des investissements et ça, les personnes ne pouvaient pas les avoir. Et de ce fait, donc, c'est ce qu'on appelle des exaptations dans mon jargon. On a prolongé le mode d'organisation du travail de la grosse industrie vers le secteur tertiaire. Et on ne s'est pas posé la question parce qu'on pensait que c'était complètement normal. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que ce n'est plus possible. Écoutez, même dans les moyens de production, c'est-à-dire même dans la grosse industrie, il faut savoir quand même qu'en Chine, à Wuhan, où d'où est parti le coronavirus, les usines ont continué à travailler parce que déjà, ils ont complètement numérisé. Alors, c'est pas valable pour toutes les usines, mais par exemple, une des difficultés en Allemagne, c'est de savoir comment connecter toutes les machines dans les moyens de production sans qu'il y ait évidemment de piratage ou on puisse avoir la maîtrise des réseaux. C'est-à-dire que même ce que l'on croyait être quelque chose d'inamovible, donc les gros moyens de production, aujourd'hui font l'objet de modélisation numérique, qu'on appelle les jumeaux numériques, qui peuvent être gérés numériquement. Donc, globalement, on va passer d'un système qui était très centripète, c'est-à-dire que les personnes se déplaçaient et allaient ensemble travailler au même endroit, ce qui présente des avantages, évidemment. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, et même pour les systèmes de production, pour des biens qui peuvent être des voitures, notamment par exemple, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des systèmes de plus en plus centrifuges et qui sont sur des réseaux. C'est cette révolution-là qui, je ne dirais pas que les entreprises n'ont pas réfléchi, tout ça c'était déjà émergent, mais qu'en l'occurrence, il va falloir que maintenant, elles intègrent vraiment dans une véritable réflexion stratégique en termes d'organisation pour le monde qui vient.
Un dernier mot, Pascal Pic. Certaines entreprises, comme dans toute évolution, luttent contre, les organisations résistent. Est-ce que ça ne sert strictement à rien ? C'est perdre du temps ?
Non, écoutez, le changement, c'est pas balayer le passé. Le changement, ça nécessite une véritable réflexion. Et le vrai enjeu, comme pour le télétravail, mais de manière beaucoup plus élargie, c'est d'être capable pour les managers et les dirigeants, parce que la révolution, ça ne va pas être les gens qui télétravaillent. Ça va être le management autour du télétravail. C'est ça qui va être extrêmement important. C'est une nouvelle forme d'organisation. Hein. Et derrière cela, en effet, c'est comment être capable de le présenter comme d'une façon très claire qui peut amener le consentement. Il y a des personnes qui peuvent consentir à faire du télétravail, d'autres pas de la même manière, d'autres qui se sentent plus ou moins à l'aise. Et c'est ceci qui va nécessiter aujourd'hui un management beaucoup plus ouvert, beaucoup plus coopératif. Et je le rappelle, comme disait le regretté Michel Serres, manager, ça veut dire augmenter. C'est-à-dire être capable de détecter les compétences que l'on ignore. Ce qu'on appelle le paradoxe de Polanyi, c'est-à-dire que nous tous, vous, madame, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, nous avons beaucoup plus de compétences que nous sommes capables de le dire. Et c'est ça, évidemment, qui va être un vrai enjeu aujourd'hui, comment le contexte actuel va permettre d'exprimer ces compétences nouvelles, parfois ignorées, dans un nouveau modèle qui va nécessiter le consentement. C'est ça la vraie révolution à laquelle nous sommes confrontés.
Merci beaucoup Pascal Pic d'avoir été avec nous, paléanthropologue et maître de conférences au Collège de France. On va parler formation désormais.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Les Français prennent enfin en main leur carrière. C'est ce qui ressort globalement d'une étude qui a été réalisée par l'École française et l'Institut de sondage BVA. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Thibaut Villiers, vous êtes avec nous. Vous êtes le cofondateur de l'École française. Quand vous nous dites que 60% des actifs seraient prêts à demander des congés pour se former, moi, ce que je comprends, c'est qu'ils prennent enfin en main, à titre personnel, leur carrière et l'outil de formation au lieu de le laisser à leur DRH. Mais comme vous haussez des sourcils, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris la même chose.
Si. En effet, c'est ce qu'on constate chez nous. Les Français, les personnes, prennent en main leur carrière et choisissent d'eux-mêmes de suivre des formations. Et d'ailleurs, ils n'attendent plus que la proposition de formation vienne de leur employeur. Mais ils font la démarche personnelle de venir se connecter sur notre site internet, par exemple, et de choisir une formation et de s'y inscrire seul.
Donc ça, c'est un changement majeur. Parce qu'avant, on attendait que la DRH vous envoie « il faut faire une formation parce qu'il faut le faire ». On prenait n'importe quoi pour prendre son DIF et puis ça s'arrêtait là. Et là, c'est des formations qui ne sont pas forcément directement en lien avec l'entreprise.
Exactement. Laissez-moi vous donner des chiffres. À l'École française, plusieurs milliers de personnes ont suivi une formation à domicile, certifiante, sans dépenser un euro de leur poche. Parce que toutes les formations de l'École française sont prises en charge par le compte personnel de formation.
Comme celle des autres organismes de formation, c'est pas spécifique,
non. Bien sûr, c'est un droit. C'est un droit pour tous les Français, mais moins de 3% des Français ont utilisé ce droit cette année. Donc nous, notre mission, c'est de permettre à tous de trouver une formation prise en charge sans rien avoir à demander ni à son employeur, ni à son conseiller Pôle emploi.
Pour se former, il faut avoir un projet quand même. On ne se forme pas sur tout et n'importe quoi. Mmh. Ça bouge avec la crise sanitaire. Il y a des changements de carrière, des évolutions.
En effet, alors on constate deux grands types de profils. Il y a, comme vous le dites, les personnes qui souhaitent mettre le pied dans un nouveau secteur, dans un nouveau métier, et qui envisagent la formation comme un tremplin. Il y a d'autres personnes qui, à l'inverse, souhaitent rester dans leur métier ou dans leur secteur, mais sentent que pour évoluer, soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise, vont avoir besoin de compétences additionnelles, soit parce qu'elles en ressentent elles-mêmes le besoin, soit parce que une certification est nécessaire pour évoluer.
Mais quand on voit 60% sont prêts à prendre des jours de congé pour se former, c'est-à-dire que non seulement elles n'attendent pas de l'entreprise, mais carrément elles vont au-delà. Elles vont même au-delà de ce que propose, de ce que voudrait l'entreprise.
Oui, parce que chacun sait que sa carrière ne dépend plus maintenant de son entreprise.
Sert le DRH, du coup ? Je pose la question.
Alors, le DRH a une responsabilité, lui, qui est...
S'il s'occupe plus de la formation ?
Non, ce sont des dispositifs différents. Le DRH s'occupe de la formation, et d'ailleurs, il a l'obligation, et il doit en répondre, de former ses salariés. Mm-hmm. Par contre, le salarié, lui, en face, a un droit qui est distinct, qui est de se former dans les domaines ou les disciplines ou les compétences que lui estime utiles pour sa carrière. Et c'est un jeu en fait un peu différent parce que ce que va vouloir le DRH n'est pas forcément équivalent à ce que va vouloir un salarié comme nouvelle compétence. Donc ce sont des dispositifs et des systèmes qui fonctionnent assez bien ensemble. Le DRH et l'employeur a la possibilité via le plan de formation d'inscrire des salariés à des formations. Et un individu de l'autre côté, qu'il soit salarié ou même indépendant ou même demandeur d'emploi, a aussi le droit, grâce au compte personnel de formation, de choisir la formation qu'il souhaite et de la suivre comme il l'entend, sans avoir à demander d'autorisation à son DRH.
Qu'est-ce qu'ils choisissent ? De l'anglais ? De l'orthographe ? Qu'est-ce qui marche le mieux ?
Alors, chez nous, on a un spectre assez vaste de formation. Ça va de anglais, vous l'avez dit, management, informatique, immobilier, mais aussi décoration d'intérieur, œnologie. On essaye de faire en sorte que chacun puisse trouver une formation qui lui convient sur l'écolefrançaise.fr.
Formation à distance, management à distance, télémanagement, ça a son...
Bien sûr, la formation management est suivie aujourd'hui exclusivement à distance. Et elle forme évidemment des personnes qui sont sensibles et qui ont choisi cette formation parce qu'elles ont
Mais elle est à distance sur le distanciel, quand on se forme à distance sur l'essentiel.
C'est une boucle.
Plutôt cohérent. Merci beaucoup Thibaut Viguier, cofondateur de l'École française. Il faudra qu'on fasse le point dans un an pour savoir si toutes les formations commencées ont été suivies jusqu'au bout. Ça, je voudrais savoir, vous me direz, dans un an.
On a des chiffres. On a des chiffres. Chez nous, plus de 90% des élèves qui commencent leur formation la terminent.
Parce qu'il y a un humain en face d'eux ou pas ?
Parce qu'il y a quoi ?
Un humain.
Il y a évidemment un accompagnement humain, et c'est très important de le dire, parce qu'une personne qui suit une formation sans accompagnement, comme vous l'avez assez bien...
Les MOOC, en général, on ne va pas jusqu'au bout.
Exactement. Mais nous ne faisons pas des MOOC. Nous faisons des formations avec un accompagnement.
Avec des humains. Merci beaucoup Thibaut Viguier, cofondateur de l'École française, d'avoir été avec nous. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.